Cube Radio.
Bonjour tout le monde, ici André Péloquin en remplacement de Christine Lemousse et avertissement. Prière de ne pas écouter cet épisode de Paix sur Start avec vos enfants ou des personnes qui ont des oreilles particulièrement chastes parce qu'on va parler de pornographie.
Bonjour.
Vous aurez deviné à son rire que je suis en compagnie de Kasi Sharp. Comment ça va, Kasi?
Ça va sexy.
Ça va, dit-elle avec sa voix de France Castel.
J'ai une voix de sorcière, mais oui, c'est bon.
Non, mais en même temps, France Castel animait une émission sexy aussi il y a quelques années
bon,
à TQS et je trahis mon âge. On a un invité aujourd'hui.
Très spécial.
Bonjour.
Marc-Antoine Turcotte.
Comment ça va?
Et ça va très bien.
Elle a soupiré.
On va le passer en entrevue tantôt pour un projet assez spécial. Le monsieur Marc-Antoine Turcotte, qui est un collaborateur évidemment de Paix sur Start, était sur un reportage plutôt sexy.
Ouais.
Et c'est ce qu'on va explorer dans quelques instants sur ce nouvel épisode de Paix sur Start. Quasi.
Oui.
Je ne sais pas si ça se dit au micro, mais comment on s'est retrouvé à enregistrer aujourd'hui un épisode de Paix sur Start qui parle de porno?
Oui, aujourd'hui, premièrement, on parle de porno.
De porno.
Dire, là. C'est ça, on parle de porn. Je pense que je jasais avec les gars de podcast, puis je leur expliquais que tout se fait maintenant en réalité virtuelle. Des choses que vous pouvez peut-être même pas vous imaginer. Donc, je me suis dit, on pourrait peut-être faire un épisode sur la porn, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sait que la pornographie, c'est maintenant un jeu.
En effet, c'est depuis l'expression « jouer aux fesses ».
c'est ce qu'on parle aujourd'hui.
Et voilà, exactement, et dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, quasi aujourd'hui, tu vas nous faire une espèce d'histoire 101 de la porno et des jeux vidéo, c'est bien ça?
Oui, mais je ne vais pas vous parler de la porno tout seul puis du jeu vidéo tout seul, je vais vous parler des deux ensemble.
Oh,
donc,
d'accord.
C'est quand est-ce qu'ils se sont rencontrés? Parce qu'on s'entend que les scènes sexy dans les jeux vidéo, c'est pas récent, c'est pas nouveau, c'est pas même que ça choque même plus. Bon. Peut-être dans GTA 5, mettons, quand il y a eu une petite scène cute entre Trevor et une jolie jeune dame dans un trailer, il y avait une petite réaction, c'était très explicite, mais en 2019, je serais pas bien surprise de voir des scènes sexuelles. je suis pas capable d'être sérieuse, les amis. Hein. Je suis un bébé. Aujourd'hui, je vous parle plutôt du style et le jeu érotique, le jeu pornographique, donc qui donne du plaisir. Pas juste les jupes courtes, mais vraiment dans un but de plaisir, dit-on. Le premier jeu commercial érotique est sorti en 1982, gang.
Oh boy.
Sur un vieux PC, c'est le 8800, donc on est comme dans une autre catégorie. Évidemment, ça vient du Japon, hein. On n'est pas complètement surpris, parce qu'ils sont très avancés en technologie quand même. Donc, dans le jeu vidéo aussi, c'est pas mal là que ça se passait, l'innovation, dont la rencontre de la porn et du jeu vidéo. Mais c'était quand même avec des intentions nobles. C'était avec l'intention de rapprocher les couples. Il y avait même un calendrier pour le cycle menstruel des femmes dans ce jeu-là et des carnets de positions sexuelles. Donc, 1982, quand même une grosse controverse quand même comme truc. Parce que c'était un jeu commercial. C'était pas un jeu comme super indie bizarre. Mais c'est indie pareil, là.
Mm-hmm.
Mais c'était quand même commercial. Et c'était un jeu qui était fier d'être... je vous suggère quand même d'aller checker sur Google Images. Ça va pas choquer vos yeux 2019.
Quasi, il y a mon cousin qui porte exactement le même prénom et nom de famille que moi qui se demande, mais quel est le nom de ce jeu, disons, qu'on voudrait le googler?
Ah oui, Nightlife. Excusez, j'ai oublié de vous dire le nom, c'est Nightlife.
Nightlife.
Donc, littéralement, Nightlife, la vie, le vivre dans la nuit.
Ah.
Ouais. Ça a pas pris ben 20 ans avant. Ils ont continué dans cette lancée-là. Il y a même eu un jeu style Pac-Man porn.
Oh my God. Et... Je vais me risquer exactement. Qu'est-ce qu'on mange?
C'est wanka wanka. Non, vous mangez vraiment des points, des types d'hôtes, là, comme dans Pac-Man, sauf que c'est dans le but de vous rendre éventuellement dans un bordel.
OK.
C'était pas l'objectif de Pac-Man?
Oui, exactement. C'est peut-être là qu'il s'en allait. Et puis, bon, avant de rentrer dans le bordel, c'est un combat contre une maladie transmise sexuellement. Oui, ça, c'est un jeu qui s'appelle Swinging Singles, que vous ne pouvez absolument pas vous trouver aujourd'hui. Là, si vous trouvez ça, bonne chance.
J'imagine que c'est pas Capcom qui a développé ça. Là.
Non, c'est ça. Mais il y avait quand même Square Enix qui développait des jeux olé olé dans ces années-là, des jeux sexy. Ceux qui ont mon âge vont peut-être se rappeler de Girls Panic, parce que c'est un petit peu moins vieux, des années 90. Mm-hmm. C'est un jeu qui a aussi comme un genre de réputation sur le web. Ça fait rire beaucoup de gens. C'est un jeu de puzzle, tu dois dénuder des jolies dames. Donc, Girls Panic, qui est encore très trouvable sur les internets. Mais
Et sur borne d'arcade aussi, d'ailleurs. Sur,
ben, c'est arcade, c'est un jeu arcade.
C'est un peu gênant.
C'est un peu gênant, mais hein, quand on s'assume dans la vie...
Il y a ça aussi.
Mais c'est vraiment dans les années 2000 puis 2010 là, que le jeu sexuel est allé à un autre niveau.
Oh!
Parce qu'on a commencé à avoir des scènes sexuelles romantiques dans le monde du jeu vidéo. On parle de God of War, tu sais, vraiment des scènes où est-ce que le sexe fait partie de l'histoire. C'est comme un cheminement normal dans une relation de deux personnes qui s'aiment. Donc, on est plus dans le romantique, moins dans le porn. Mais là, il y a un jeu qui s'appelle Singles qui est sorti. C'était comme la réponse à Sims. Sims, c'était trop chaste. Singles, le but, c'était de fréquenter des gens et close the deal.
OK.
Donc, on avait des moments sexuellement très explicites.
Est-ce que c'était destiné à quel public, ça, en fait? Parce que The Sims, c'est pour tous, on s'entend?
The Sims, c'est pour tous. Singles, c'est pour ceux qui cherchent un peu plus d'épices dans la vie de leur
D'accord.
Sims. J'ai d'ailleurs joué à Singles quand j'étais adolescente.
Oh my!
Donc, moi, je trouvais tout sur Internet. Hein. Puis, je savais pas à quel point c'était sexuel jusqu'à temps que je joue. Puis là, j'étais comme, « Ouh, c'est pas pour moi, ça! » Je pense que c'est là qu'on entre dans la réalité virtuelle. Ou est-ce que, tu sais, là, maintenant, avec l'Oculus Rift, avec HTC Vive, surtout les jeux PC, on va se le dire, là, c'est pas vraiment sur la PlayStation que vous allez voir des jeux hyper sexuels, malgré qu'il y en a au Japon exclusivement. Il n'y en a pas vraiment ici. C'est plutôt sur PC que ça se passe à cause que ça peut être vendu directement au consommateur au lieu de passer par une boutique qui va censurer ces choses-là.
D'accord.
Donc, l'Oculus Rift et la HTC Vive, pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi, c'est des casques de réalité virtuelle. Casque de réalité virtuelle, ça veut dire tu mets un casque et tu es dans l'action. Donc maintenant, sur Pornhub, il y a l'option casque de réalité virtuelle. Si tu veux, il y a des vidéos qui sont faites en 4K. Tu mets ton petit casque, tu mets ton Samsung Game Gear, je sais pas quoi, casse sa tête, et tu es dans le feu de l'action. Et quand que la femme est en ce qu'on appelle un POV, ben c'est tout un POV, tu peux regarder en arrière de toi, pas juste en avant.
C'est un POV, dans le fond, c'est pour les gens qui ne le savent pas. Et moi, je le sais parce que je l'ai googlé. C'est
pour la science, oui.
C'est ça, exactement. C'est pas comme si je le savais d'expérience.
Ouais, ouais.
Ça veut dire à la première personne. C'est comme si on était la personne qui se fait...
Qui reçoit.
Ouais, l'abréviation, c'est point of view.
Et voilà.
Point of view, oui.
Mais c'est ce que mon cousin qui a le même nom et prénom
que
moi m'a
dit. Ah oui, ton cousin Péloquin.
Ouais.
Mais c'est ça, fait que c'est toi qui donne et c'est toi qui reçois. Sauf que tu ressens rien là-dedans. Tu n'es qu'un humble spectateur.
Pas encore.
J'avoue que l'immersion est très poussée.
C'est la science, un jour peut-être.
Exactement. Fait que là, quand c'est de la pornographie, mettons, traditionnelle, où est-ce que tu fais juste mettre un casque, oui, ça change l'expérience, mais on reste encore dans la pornographie traditionnelle. Là, on a maintenant des jeux où est-ce que c'est plus des acteurs qui sont devant toi, mais bien des personnages fictifs numériques. C'est pas des vraies personnes. Puis t'as des manettes dans les mains parce que la HTC Vive, Oculus Rift, il y a des manettes. Donc ça, c'est la prochaine step. On est quand même dans le rétro aussi de la réalité virtuelle porn. Les amis, ça va plus loin encore. Je vais
oh,
pousser.
Dieu.
On va aller profond. Déjà en 2013-2015, c'est dans ces années-là qu'on commençait à développer des jouets sexuels de la réalité virtuelle. Donc, non seulement vous portez le casque et vous offrez et recevez le plaisir, mais vous le ressentez pour vrai à l'aide d'objets qui sont synchronisés au jeu.
Oh my God!
Donc, c'est là-dedans qu'on est. Là. En ce moment, en 2019, c'est le gros développement. Puis, vous allez pas voir ça à, mettons, E3.
J'espère.
T'sais, peut-être pas au E3, peut-être plus dans les trucs business B2B, où est-ce que c'est les compagnies qui se rencontrent.
Je l'ai vu au MIGS.
Exactement. C'est mon segue, dans le fond. Au MIGS à Montréal, c'est plus business quand même. C'est les entreprises qui se rencontrent entre elles pour faire des contacts, pour trouver des distributeurs, etc. Il y a une compagnie à Montréal qui spécialise dans le jeu sexy et on a quelqu'un au bureau avec nous, Marc-Antoine, qui a testé cette chose-là.
Yes.
Mais toi, c'était pas avec l'objet sur le
Non,
le
moi,
membre.
C'était... Bon, je me suis gardé une petite gêne. J'ai seulement mis le Oculus Rift.
L'Oculus, il allait sa tête. Je veux juste préciser, l'Oculus allait sa tête.
On n'a pas passé ça... On n'a pas passé un gadget au lavabo après ou un truc genre pour
nettoyer. Non, il y avait quand même un caméraman dans la pièce, donc.
Et voilà.
Ouais, puis t'avais des manettes aussi, ouais. Si je comprends bien. Puis ton jeu, ça s'appelait...
C'était Sexbot Quality Assurance Simulator, donc... Ceux qui peuvent traduire, ça vous en dit un peu. Là.
C'est
bon,
le QA
Sexbot.
Bon,
QA Sexbot. Ouais. Sexbot.
C'est un jeu parce qu'on doit évaluer la performance de robots sexuels.
Oui, mais c'est plus l'inverse qui se passe dans le jeu-là. Dans
c'est
le sens
elle qui
que...
juge.
Ouais.
Comme, elle, là, j'aime pas ça. Là.
Pour chaque Sexbot différent,
ouais.
bon, son sweet spot, si vous me permettez le terme, bon, ce qui la satisfait est différent d'une à l'autre.
Ah, faut t'explorer.
Donc là, c'est, ouais, c'est de l'exploration. Donc ça peut être, elle peut bien aimer ça quand, exemple, j'y tente les seins.
Mm-hmm.
Puis l'autre, ça peut être autre chose. Puis tu peux aussi personnaliser ton sexbot. Donc, si toi,
c'est
ton
un
fun.
Fantasme, là, ouais.
Ouais, si toi, ton fun, c'est les femmes extraterrestres vertes avec des tatous bleus fluo puis des cheveux mauves, tu peux le faire.
Oh my God.
Ouais. Donc, la personnalisation fait partie de l'expérience.
Tu peux choisir. Il y avait. Bon, ils ont aussi récemment, ils ont une nouvelle mission, c'est d'intégrer puis un peu d'accueillir aussi la communauté LGBTQ+.
Oui,
dans les jeux. Donc, c'était possible aussi d'avoir un sexbot qui était transgenre.
Ben, justement, ça, je vais t'en parler. Ouais. C'était quoi la variété des sexbots qu'on ouvre? Fait que là, finalement, c'est assez varié, là.
Ouais, pas mal de tout. Ouais.
Ah, ben, tant mieux. Côté graphisme, de quoi ça a l'air, là? Est-ce que c'est comme on se perd dans le réalisme de la patente?
Ben,
ou
c'est. Bon, on se rend encore compte qu'on est dans un jeu, donc, tu sais, c'est pas encore parfait, mais c'est quand même développé par une grosse compagnie.
Mm-hmm.
Nutaku, comme tu l'as dit, qui est aussi. Bon, Nutaku, qui est une propriété de MindGeek.
Ah,
donc,
okay.
Ils ont aussi des sites de pornographie conventionnelle comme Pornhub, YouPorn.
Voilà.
Une entreprise locale, les amis.
Oui.
Ouais. Puis, j'ai une statistique ici par année. Comment qu'ils investissent d'argent dans le... Parce que c'est pas eux à la maison qui développent les... C'est pas des produits maison, c'est... Ils font affaire avec des développeurs externes.
D'accord.
Qui, eux, bon, je dirais pas des appels d'offres, mais tu sais, ils proposent leur... C'est vraiment simple. Moi, je suis un développeur, je peux proposer un concept de jeu érotique, interactif à Nutaku.
Oui.
Nutaku le passe dans Tordor, ça fait un job, ils me financent.
D'accord.
10 millions par année qui sont investis dans des productions externes.
Les amis à la maison, goût, on sait qu'il y a beaucoup de développeurs au Québec, des jeunes qui sont très, très bons en programmation, ouais, et en développement. C'est pas parce que c'est de la porn que c'est pas payant, au contraire.
C'est l'inverse, justement.
C'est l'inverse.
C'est ça qui m'expliquait, mais en ce moment, il y aurait, bon, plus que 100 projets, justement, en cours d'évaluation pour
oh
des nouveaux
God.
Jeux.
Oh my God!
C'est beaucoup, là. Tu parlais, justement, des développeurs. C'était un des gros points que Jean-François Tremblay, qui est gestionnaire au développement des affaires chez Nutaku, m'expliquait. Ben, pas m'expliquait directement, mais pendant sa conférence, il a pas vraiment misé sur l'aspect « on fait des jeux pour adultes
».
Il a dit... Ici, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent déjà pour d'autres entreprises. Vous êtes tannés de pas faire d'argent. Venez avec nous, vous allez en faire. Parce que eux, c'est un système de microtransactions. Souvent.
OK, ouais.
Donc oui, il y a des jeux premium, exemple, que je dois payer 30$ pour avoir l'accès complet.
Ouais.
Mais la plupart des jeux, c'est...
Ils sont gratuits, j'ai remarqué beaucoup, là.
Je joue, puis là, à un moment donné, j'arrive devant un paywall qui me dit, si tu veux en avoir plus, tu payes.
Ah.
Fait que, mettons, 2$ par-ci.
Quelle attrape
par-là. 5$. Mais oui, sauf qu'au final, tu sais, ça revient moins cher. Mettons, ça t'a coûté 20$. Tu peux rejouer le jeu dans ta bibliothèque. Donc, oui, vraiment cet aspect-là. Mais pour ce qui est de l'expérience, on revient du côté graphique, ça ressemblait, je te dirais, à un jeu que tu peux retrouver sur le marché de la PS4 en VR.
Ah, quand même.
Un jeu plus indie, là. Tu sais, je dirais pas une super production comme Resident Evil, mais un plus petit jeu.
Ça reste du cartoon, là. La fille, c'est pas une vraie.
Ben,
c'est une sexbot, oui, mais c'est du cartoon, faut le rappeler à la maison. La seule vraie porn, réalité virtuelle, où est-ce que c'est des vrais humains? Ils sont pas en jeu en ce moment.
Non,
c'est
non,
vraiment
non, c'est
juste c'est la vraie pornographie en ligne. C'est pas.
Puis là, la question qui tue un peu Marc-Antoine, je veux dire, sans te demander. Tu sais, je veux dire, l'objectif, c'est au moins de titiller. Je veux dire, il y a des joueurs qui vont aller plus loin. Ça t'a-tu titillé? T'as-tu trouvé ça ridicule?
Ben, moi, personnellement, c'est pas comme ma tasse de thé, tu sais, je dirais. Mm-hmm. Mais j'ai quand même tenté l'expérience avec un état d'esprit, une ouverture d'esprit quand même.
Ouais.
En arrivant là-dedans, j'avais pas le choix, tu sais.
Mais oui.
Parce que c'était nouveau pour moi, c'était nouveau pour beaucoup de monde à qui je l'ai montré. Puis, je te dirais, moi, ce qui m'a vraiment...
Turn off.
Ouais, turn off. Dans ce sens-là, ben, premièrement, moi, ça m'attire pas, tu sais, les personnages virtuels, donc.
Tous les extraterrestres bleus.
Déjà là, c'est ça. Déjà là, j'avais un mur que je devais traverser pour essayer de vivre l'expérience d'une façon plus interactive et plus immersive, tu sais. C'était surtout les contrôles, je pense, qui m'ont un peu buggé, tu sais. Parce que c'était compliqué, tu sais.
Ça buggait.
J'ai l'impression que tu savais pas trop quoi faire. Puis là, à un moment donné, t'as essayé de pogner la jambe de la fille. Puis là, ça.
Wow!
Comme dans la vraie vie.
Donc, c'était vraiment au niveau des contrôles, c'était un peu complexe. Je savais pas toujours ce que je faisais. Je le faisais, mais j'étais comme, oh, comment j'ai réussi ça?
Comme tous les garçons du secondaire.
Pas juste au secondaire, quasi.
Ah, les adultes.
Donc, tu sais, je pense que t'as un aspect quand même important qu'il faut pas négliger, c'est que je me verrais pas jouer à ce jeu-là pendant, exemple, 4 heures de temps juste pour saisir, juste pour saisir les contrôles, tu sais.
Ouais.
Mais moi, c'est ça que je trouvais intéressant. Tu lèves une question intéressante. Quel est le marché de ces jeux-là? Est-ce que c'est le gamer? Est-ce que c'est l'homme, tout simplement, qui veut être titillé, on pourrait dire, ou qui veut être excité? Est-ce que c'est le gambler? C'est quoi? C'est quel genre de public? Moi, c'est vraiment ça que je trouve pertinent. Parce que tout le monde, on s'entend, la population regarde la porn. Là, c'est pas, y a pas de type.
Puis il y a vraiment un public. Bon, même si on peut penser que c'est un phénomène qui est assez marginal, bon, le fait de jouer à des jeux érotiques en ligne, interactifs, Nukutaku, pour vous donner une idée, a été lancé en 2015.
Oui.
En 2018, ils sont rendus 20 millions d'utilisateurs enregistrés. God. Plus de 175 jeux, et puis même seulement un an après leur lancement, il y avait déjà plus d'un million d'abonnés.
175 jeux déjà?
En août dernier.
Ils
n'ont
pas besoin de faire de pub, eux autres.
Non. En août dernier, ils ont connu leur record de visites mensuelles avec 115 millions.
Wow. Tabarouette.
Il est dans le top. Bon, on peut continuer encore avec des stats. 213e site le plus visité aux États-Unis, 426e site le plus visité au monde. Donc, moi aussi, j'étais comme, oh my God. Parce que dans ma tête, c'était un phénomène vraiment marginal. C'est un public vraiment niché, tu sais.
Totalement.
Mais dans ma tête, personne ne regardait ça. Fait que quand j'ai vu ces stats-là, j'ai été vraiment surpris. Puis, ce que m'expliquait justement l'employé de Nukutaku, c'est que le public cible n'est pas le même que, exemple, un consommateur de porno
traditionnel.
Ouais, traditionnel. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est un peu le processus. Tu sais, son but, c'est pas de se soulager dans les 5, 10, 15 minutes qui suivent, tu sais.
C'est l'aventure et non la destination.
C'est ça. Lui, ce qu'il cherche, c'est comme la progression. Puis là, à la fin, il y a sa récompense.
Comme il regarde la pointe pour l'histoire.
Il m'a fait une bonne analogie. C'est, exemple, qu'on joue à un RPG.
Oui.
Le but du jeu, nous, en tant que gamer normal, c'est d'accumuler de l'armure de plus en plus puissante.
Mm-hmm.
Tandis que dans un jeu sur Nukutaku, c'est l'inverse. Plus que tu avances dans le jeu, plus tu perds de morceaux d'armure. Puis là, jusqu'à temps que ton personnage soit complètement nu, puis là que tu fasses ça, j'ai réussi. Par rapport à ce qu'on disait tantôt avec les objets connectés, justement, JF, ce qu'il m'a dit, c'était super intéressant, c'est que j'ai demandé, est-ce que tu penses que c'est l'avenir, bon, d'avoir un casque, un jeu virtuel, un casque, puis ça pourrait être, bon, on entend beaucoup parler des nouveaux robots sexuels qui sont presque méconnaissables entre un robot et un être humain, si ce n'est que quand on commence à parler, tu sais. Puis il disait, il dit pas que ça va arriver bientôt, mais il dit, d'après moi, dans la prochaine décennie, ça va être comme le futur du divertissement pour adultes.
Ouais.
Va inclure un casque, un objet connecté, bon, je sais pas comment appeler ça, autre qu'une flashlight, exemple.
Oui, une flashlight.
Mm-hmm. Ou même un robot complet.
Mm-hmm.
Puis un médium qui nous permet de visionner ce qu'on a envie de visionner
pendant qu'on fait les trois autres choses.
T'sais. Mon Dieu.
Mais je trouvais ça intéressant dans ton entrevue, c'est qu'il reste quand même modeste dans ses projections du futur à cause que je pense qu'il comprend, et je pense qu'on comprend quand même ici que il y a une éducation à faire avant de se rendre dans l'ouverture d'esprit complète du jeu sexuel. Fait que je pense, avant 10 ans, là, je pense pas que ça va être comme démocratisé tant que ça.
Non, mais en même temps, ce qui est intéressant pour eux, c'est que, comme j'ai dit, ils essaient d'inclure vraiment la communauté au sens large. Toutes les sphères, toutes les orientations sexuelles,
mm-hmm.
tous les fantasmes. Donc, tu sais, je pense que ça peut rejoindre beaucoup plus de monde qu'on le pense. Comme je disais avec les chiffres tantôt, quand même impressionnant de visites puis de nombre d'abonnés. Donc, moi, je pense que dans 10 ans, il va y avoir beaucoup de chemin qui va s'être fait de ce côté-là. Mais c'est parce que ça reste quand même quelque chose que t'aimes ça ou t'aimes pas ça.
Merci beaucoup, Marc-Antoine. Très intéressant. Merci. Quand j'ai pensé à ce sujet-là, je me suis tout de suite rappelé de ton excellente vidéo que vous pouvez revoir sur la page Facebook de Tabloïd.
Ouais, la page Facebook de Tabloïd ou sur Medium.com, sur la page de Tabloïd. On a aussi un texte complet à ce sujet-là.
Ah, génial.
C'est fascinant. Tu m'as fait penser à quelque chose de bien intéressant, par contre, Marc-Antoine. Tu as dit que les jeux VR sexuels commencent à inclure de plus en plus les communautés LGBT. Dans le fond, quand on se base sur les statistiques des sites comme Pornhub, on se rend compte que faut donner au public ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est pas nécessairement homme, femme, pénétration, bail. André est là aujourd'hui pour nous parler de plus de statistiques et de termes intéressants sur Pornhub qui ont un petit lien avec le jeu vidéo. Parce qu'on voit le jeu vidéo, la pornographie a, on pourrait dire, infiltré le jeu vidéo, mais le jeu vidéo a aussi infiltré la pornographie.
Totalement, quasi, totalement. Et là, on continue vraiment après Nukutaku. On y va avec un autre produit, MindGeek, Pornhub. En décembre dernier, il y a Pornhub qui dévoilait son bilan de l'année 2018 et ça démontrait plus que jamais que la règle 34 n'est pas qu'une espèce de fantaisie du web, c'est vraiment un phénomène de société. Pour les gens qui se demandent c'est quoi la règle 34, bien, on va vous expliquer ça. S'il y a quelque chose qui existe, un objet, un personnage, une tendance, un événement, tout ce que vous voulez, ça existe en version porno.
Imagine. Et ça a excité quelqu'un quelque part.
Et oui, exactement. Vous pensez, par exemple, à comme des dragons puis des voitures. Eh bien, sur Reddit, il y a une sous-section où est-ce que des gens envoient des dessins en 3D ou vraiment cru de voitures qui s'envoient en l'air avec des dragons et vice-versa.
Ah, pour vrai?
Vraiment? C'est vraiment un thread.
Mais ça s'appelle, ben là, on s'entend que c'est une grosse blague, là, mais c'est...
Cars and Dragons.
Je pense que ça s'appelle Dragons Fucking Car ou Cars Fucking Dragon, un truc genre. Pour revenir sur les résultats de 2018 des recherches les plus populaires sur Pornhub, la première position était évidemment Stormy Daniels avec l'affaire de Donald Trump. Ça a fait beaucoup jaser, évidemment. Alors les gens, c'est comme, ah mon Dieu, une actrice porno, je me demande dans quoi elle a déjà joué. Je me demande c'est quoi son corpus pour mes recherches politiques. Mais le deuxième terme le plus populaire était Fortnite.
Fortnite, les amis.
Oh, ouais. Oui, bien que le jeu est super populaire, on s'entend, c'était le jeu de l'heure en 2018. On s'entend que ça demeure quand même un jeu pour tous, voire qui s'adresse aux enfants. Alors, les personnages n'étaient pas super sexualisés. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui se sont acharnés sur le moteur de recherche de Pornhub pour voir ce que les pornographes allaient en faire. Une question qui vient sûrement en tête, pourquoi il y a des gens qui cherchent ça et pourquoi il y a des gens qui font ça en fait, parce qu'il y a aussi l'offre et la demande.
Oui.
Eh bien, il y a un psychologue spécialisé en questions sexuelles qui s'appelle Justin Le Miller, qui en a parlé sur son blog personnel. Il a aussi donné des entrevues à ce sujet pour le journal Mirror, pour le magazine Men's Health aussi. Et ce qu'il en retient, c'est que, selon ce monsieur-là, on a un désir de retrouver des vidéos porno inspirées de jeux vidéo. Fait que c'est vu que ce désir-là de recherche stimule la production de ceux-ci, évidemment, puis c'est une espèce de cercle particulièrement vicieux, eh bien, ce désir-là est lié à notre désir libidineux de nouveautés sexuelles. Et c'est justement ce qu'est la porno animée. Puis là, on parle ici de la porno créée à l'aide de moteurs de création de jeux vidéo en images de synthèse, ou encore on peut même aller jusqu'au hentai, les dessins animés japonais. C'est ce que ces dessins-là animés permettent. On parle ici de mise en scène qui tiennent de la science-fiction, je dirais. À quelque part, il y a quelqu'un qui s'excite comme mon Dieu. On parle aussi de positions sexuelles impossibles en apesanteur avec vraiment de la flexibilité rivalisant avec le cercle du soleil, Allegria et tout ça.
On peut pousser les limites du possible dans la réalité là-dedans.
Et voilà. Il y a aussi à noter, les joueurs ne font pas que chercher de la porno de jeux vidéo, ils en regardent également sur leur console.
Ça, je m'attendais pas du tout à ça, par contre.
Dit-elle. Comme une mauvaise menteuse.
Non, c'est vrai!
Ben oui. Le bilan 2018 de Pornhub démontre que les champions, entre guillemets, dans le domaine sont les propriétaires de PlayStation. Pornhub note que...
Y a-t-il une application, genre?
Ben, je pense que tu vas juste sur ton web browser.
Je savais même pas que j'avais un browser.
Oui, il y a un furteur web sur ta PlayStation et tu peux là...
Ça s'appelle juste Internet.
Et voilà.
L'icône, c'est 3W.
Hey, c'est tellement obsolète, Internet, gang.
Et voilà. Mais puis à partir de là, tu peux faire ta recherche et aller sur les sites que tu veux. Mais c'est ça, les champions dans ce domaine, c'est les propriétaires de PlayStation. Et Pornhub note à cet effet que bien que la part de marché de PlayStation a chuté de 3% en 2018 et que celle de Xbox a monté de 4%, le trafic de consoles, est toujours dominé par PlayStation avec 54,4% des visionnements sur ces engins-là. Il y a aussi à noter, Pornhub reçoit également du trafic plus élevé que l'habitude lorsque les serveurs de jeux vidéo tombent en panne, comme c'est le cas pour Fortnite notamment. C'est arrivé en début d'année 2019, en fait. On est rendu au point où est-ce qu'on s'attend tellement à retrouver des gamers, des joueurs sur Pornhub, que des gens vont jusqu'à téléverser du contenu carrément gaming et espérer que ça passe le test. Ça a été le cas, il y a Unilad, je m'excuse, c'est comme pas une super référence, mais quand même, il y a Unilad qui rapportait récemment qu'il y a du contenu de Kingdom Hearts 3 qui s'est retrouvé sur Pornhub avant l'apparition du jeu, comme des séquences de jeu.
Ah non.
Oui.
Et c'est un jeu de Disney!
Et voilà! Mais on s'entend ici que c'était pas du contenu porno, on s'entend que c'était des séquences vidéo.
C'était comme un leak, mais
exactement.
C'est peut-être plus difficile à retracer pour...
C'est ça, exactement.
Dans le fond, ici, une place où leaker quelque chose quand même pour que ça pogne, mais pas trop, que personne n'en parle, c'est Pornhub.
Et là, sans aucun lien, Cassie va nous présenter son jeu cheap de la semaine.
Oui. Pour terminer le sujet de la VR, aujourd'hui, je veux même pas vous suggérer un jeu de VR, là. Je veux que vous faites une désintox de tout ce qu'on a dit. Vos oreilles sont sales.
On évacue.
On va appeler la police parce que vous avez regardé de la porn.
Hey!
Oup, oup. 911 Operator ou aka Smooth Operator pour les fans de Sade. Un jeu que j'adore, que j'ai joué pour la première fois aujourd'hui et que je suis accro totalement. Dans le fond, vous êtes au téléphone, quand on appelle la police, c'est à vous qu'on parle.
Le dispatcher.
Le dispatcher, c'est ça, vous êtes le dispatcher. Donc,
le répartiteur.
Répartiteur.
Ah, bien dit.
Votre job, c'est de justement répartir police, ambulance et...
Pompier.
Donc, c'est ça votre job, mais attention, c'est pas très simple. Vous avez une carte Et premièrement, vous pouvez trouver une carte locale. Donc, moi, j'étais à Laval tantôt. C'était très, très drôle.
Sérieusement? Wow!
Oui, j'envoyais des gens sur le boulevard des Hauteurs. C'était très, très drôle. Et vraiment, là, ça devient très, 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 très stressant. Et ça évolue très rapidement aussi. Donc, vous pouvez éventuellement grandir votre équipe. Vous formez un gouvernement, essentiellement. Donc, vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez amasser un peu d'argent. On perd beaucoup d'argent quand tes pompiers meurent. En tout cas, je dis ça de même. Là. Moi, j'ai perdu une crew au complet. Là. C'était dramatique. Quand t'as plus de pompiers puis que tu partes la journée du lendemain, c'est bien stressant. C'est un peu une carte à la SimCity, on pourrait voir, mais sans building. Là, c'est vraiment une carte très squelettique et vous devez dispatcher les services. C'est très, très le fun.
C'est un truc de gestion de ressources?
Gestion de ressources, oui.
Ah, tu viens me titiller, là.
C'est très gestion de ressources, très stressant. J'ai joué tantôt avec le beau Kevin Marquis de Gaboum, qui est ancien policier, travaille pour la SQ.
Oh.
Et pas gamer du tout. Lui, pas gamer pour Saint-Saëns, mais c'est un peu pour ça que je lui ai montré 911 Operator parce que t'as pas besoin d'être gamer pour aimer ça. T'as juste besoin d'aimer l'adrénaline un petit peu.
C'est quoi son verdict?
Il a adoré, il vient de me texter, il dit ça coûte combien ce jeu-là? C'est où? Où est-ce que je peux chercher ça?
Excellent!
Donc, 911 Operator, il est souvent en rabais entre 5$ et 20$ que vous allez payer pour ce jeu-là.
Okay.
Donc, ça reste dans le jeu très abordable.
Et c'est sur Steam.
Sur Steam.
On est en même temps.
Steam. Effectivement, c'est sur Steam. Un jeu très, très petit qui prend très peu de place, mais ce qui est le fun, vous pouvez télécharger des maps. Donc, si vous êtes à Montréal, chez Bougamo, c'est à vous de dispatcher. Et en passant, moi, j'ai un nouveau respect pour les gens qui font ça dans la vraie vie.
Mais mon Dieu.
C'est très, très bon. 911 Operator, un jeu qui est sorti en 2017, mais qui a comme pas vraiment pogné avant 2018. Les notes sont très, très, très positives sur Steam. Donc, allez voir ça.
Merci Marc-Antoine d'être venu.
Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.
On vous rappelle, cherchez Tabloïd sur Facebook pour voir son reportage vidéo. Sinon, sur Medium.com, la page de Tabloïd pour lire son entrevue avec les gens de Nuntaku.
Et aussi sur Play sur Start.
Eh oui, évidemment. Et aussi, Kasi, merci beaucoup pour ton petit historique du jeu vidéo porno.
Plaisir.
Pour les gens qui se demandent, mais mon Dieu, j'aimerais ça voir les captures d'écran des vidéos, lire un peu là-dessus, justement, notre contenu. Ça va être aussi sous forme de texte, ce podcast. On prépare un dossier sexy. On va vous inviter à aller au paysursart.com pour aller lire ça. Moi aussi, je vais aller publier ma petite fantaisie avec les statistiques de Pornhub. Pour les gens qui se demandent, mais mon Dieu, j'ai adoré ce podcast, où puis-je en entendre plus? Je vous réfère à ma collègue, Kasi.
Ben oui, si vous voulez trouver le podcast, ben c'est sur toutes les plateformes, Spotify, Cube, etc. Mais on est aussi sur Instagram.com/paysurstart, on est sur Facebook.com/paysurstart. Puis, ben ceux qui se demandent aussi, hey, j'ai manqué le live avec Kevin que vous avez fait, c'était sur Twitch. Donc, twitch.tv/paysurstart, on est live tous les jours de la semaine.
Merci beaucoup, Kasi. Là-dessus, on se rhabille et on vous souhaite une agréable journée.
À l'animation, André Péloquin et Kasi Charbonneau. À la réalisation et au montage, Philippe Séguin. Notre musique d'introduction est composée par Frédéric Poirier. Une production Cube Radio.